ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Notre prof de philo maison, vous avez visiblement bien profité de vos repas de fête dans l'Aveyron.
Pourquoi vous trouvez que j'ai grossi ?
Non, j'ai pas dit ça, mais je le pense. Je le pense. Et ce matin, dans votre petite philo de la pub et des marques, coup de projecteur sur la campagne pour la sécurité routière actuellement sur les écrans.
Oui, quand on tient à quelqu'un, on le retient. C'est ce que nous dit ce spot et spot TV, spot radio. On va se demander jusqu'où on peut être responsable des autres.
À tout à l'heure.
J'ai l'envie d'être bien dans ma peau et dans ma deuxième peau qui est un costume, que représente un costume. Quoi.
La belle voix de Philippe Noiret, comédien 5 étoiles, naturellement classe, quintessence à mon humble avis d'une élégance confortable, sans ostentation. Quand j'étais adolescent, il m'avait dédicacé le journal que j'avais sur moi et je fus à la fois frappé par son élégance vestimentaire et par son élégance morale, teintée d'un humour so-british. Nous avons tous une notion très personnelle de l'élégance et du chic, mais nous pressentons qu'Audrey Hepburn, Marcello Mastroianni, Hélène Mirren, Cary Grant apparaissent comme un peu plus élégants que Donald Trump, Kim Kardashian ou Mark Zuckerberg, le patron de Facebook qui n'hésite pas à porter des claquettes de piscine. Ce matin, on se demande comment être chic du matin au soir, même en étant complètement fauché. Quelles sont vos astuces pour rester chic à peu de frais? Dites-nous quelle est votre conception de l'élégance, inconnue ou célèbre, quelle est selon vous la personne la plus élégante au monde? Dites-nous si vous accordez de l'importance à l'élégance, au chic. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions pour éviter les erreurs de style et les faux pas. Peut-on par exemple porter des chaussettes blanches avec un costume? Grande question existentielle ce matin en cette période de fête. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Une définition de l'élégance à vous donner.
Une définition de l'élégance. Mon Dieu, c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Il n'y a pas de style en France. Il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Je crois être parvenu à ça.
La conception de l'élégance selon Coco Chanel en 1959 dans 5 colonnes à la une. Bonjour Viviane Blassel.
Bonjour Ali.
Je suis très heureux de vous accueillir sur France Inter. Vous avez été l'une des voix mythiques d'Europe 1 dans les années 60 à 80, voilà, puis journaliste spécialisée dans la mode à la rédaction de TF1. Je me souviens de vos imitables sujets au verbe espiègle. Quelle est votre définition de l'élégance, Viviane Blassel? Mon ami Le Robert me dit que c'est la qualité esthétique de ce qui est harmonieux, gracieux dans la simplicité, mais aussi bon goût manifestant un style personnel dans l'habillement, la parure, les manières.
Oui, alors moi il y en a une, je vais l'emprunter à Voltaire parce que je suis un petit peu timide, qui dit que l'élégance est le résultat de la justesse et de l'agrément. C'est aussi pour moi l'élégance, quelqu'un qui est élégant, c'est quelqu'un c'est un accord entre soi et soi. Quand Saint Laurent dit l'élégance est une façon de marcher, ce qu'il veut dire par là c'est que c'est un rythme. L'élégance c'est quand on envoie la même image intime que celle qu'on projette à l'extérieur. Et quand il y a accord entre ces deux-là, à ce moment-là, on est élégant. Mais je le dis tout de suite, c'est il faut des années pour l'acquérir, c'est pas dit qu'on l'ait un jour, on l'est probablement avec. L'élégance est très, très, très difficile.
Vous pensez être élégante, Viviane Blassel ?
Et pas toujours, pas toujours, ça peut m'arriver. Quelquefois, je tends vers... en tout cas, je... Quoique si, alors, on va en parler au cours de cette émission, il m'arrive de faire des fautes de goût majeures.
Par exemple.
Mais que j'assume. Et je crois qu'au fond, on peut toujours transformer les fautes de goût et puis en faire après un truc fashion. Alors non, ça c'est...
Quelle faute de goût, Viviane Blassel, par exemple?
Que moi, je pourrais faire comme ça, là, tout de suite, je pourrais sortir... Mais c'est pas une faute de goût, forcément. Je suis sortie très tôt le soir avec des pyjamas, parce que j'avais pas envie de me changer, enfin bon, des choses... Ma faute de goût, à moi, c'est plutôt, bon, allez hop, je suis confort, je suis tranquille, je vais pas faire un effort pour leur plaire, quoi. En gros, c'est un peu ça, mais c'est pas forcément une faute de goût, ça peut... Mais ce que j'ai vu une fois, c'était chez Dior... Au hasard, je vois sortir d'une cabine une dame très plantureuse, avec une grosse coiffure choucroute, etc. Habillée en total look Dior, époque Galliano, c'est vous dire que c'était flashy, décoré, etc. Pantalon, veste et tout ça. Et la vendeuse la regarde et lui dit, très, très, très discrètement, lui dit, mais madame, peut-être est-ce qu'on pourrait essayer la veste unie avec le pantalon pour que ça fasse un peu... Et la jeune femme dit, ah mais non, je veux sortir absolument comme ça. Et elle était tellement heureuse, elle débordait de tous les côtés, hein. Elle était tellement heureuse dans cet ensemble improbable que du coup, elle donnait envie. Et du coup, on ne voyait plus la faute de goût, on ne voyait que son bonheur à être dans ce vêtement qui était en même temps, fallait oser. Mais quand on arrive à ce degré-là d'audace...
Quand vous vous promenez dans la rue, bon, Vianne de la Selle, oui, vous attachez de l'importance à l'allure des gens que vous croisez.
Oui.
Est-ce que ça vous arrive de les relooker mentalement, oui, dans votre tête?
Toujours. Mais alors, ça, c'est drôle ce que vous me posez comme question, Alice, c'est que quand j'étais petite fille au lycée pendant les cours, quand certains cours m'ennuyaient, parce que par ailleurs j'étais une très bonne élève, toujours première, mais ça vous en étiez douté. Donc, je regardais mes copines et je redessinais leur visage. Je me disais, tiens, si elles aimaient un petit peu de rimmel là, un petit truc là. J'ai toujours fait ça, oui. Mais je crois que tout le monde le fait, en fait. Je crois qu'on corrige nous-mêmes. Quand on voit quelqu'un, on corrige presque toujours sa tenue. Et oui, je le fais souvent. Ce que je remarque, je prends souvent l'autobus et tout ça, c'est qu'il n'y a pas de, faute de goût majeure. Il y a des gens, alors, argent par argent, comme dirait Karl Lagerfeld, ça peut aider, mais pas toujours. On voit des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais bon, il y a le truc. Alors, est-ce que c'est le chic, selon vous, jeune homme, ou l'élégant, je ne sais pas. Mais il y a toujours une trouvaille où on voit toujours que, au fond, les gens font attention, même ceux qui visiblement ne roulent pas sur l'or. Et bon, c'est très intéressant à regarder.
Bonjour Gonzague Duplex.
Bonjour Ali.
Vous venez de publier Comment rester chic en toutes circonstances, une, oui, coédition Flammarion GQ, un ouvrage illustré par Jean-Philippe Delhomme, qui nous a hélas planté ce matin. un ouvrage qui dispense de judicieux conseils pour éviter les faux pas vestimentaires, mais pas que.
Non. Non, bien sûr que non, parce que l'élégance et le chic dont on parle ici, c'est de se désencombrer justement de tous les codes qu'il faut apprendre à gérer, digérer, intégrer, et qui diffèrent en fonction des milieux sociaux dans lesquels on évolue. À travers une journée, on peut traverser des milliers de, enfin plusieurs en tout cas, milieux sociaux. L'idée, c'est de faire effectivement jaillir le naturel de toutes ces contraintes sociales. Donc d'être soi-même au milieu des autres, et si possible le chic, donc de resplendir un minimum en étant surprenant, et donc en réenchantant à l'intérieur de chaque mini micro situation qu'un homme est habitué à traverser, un entretien, un trajet en métro, une réunion, machine à café, tout ce que vous voulez, un rendez-vous galant, de trouver, d'injecter un petit peu de surprise sur des rendez-vous que la vie nous donne et qui sont souvent très codés, très, très simples, très attendus, en fait.
Et je précise que c'est un ouvrage destiné aux hommes.
Oui, mais que les femmes aiment bien lire, justement, pour pouvoir avoir des choses à dire à leur mec.
Gonzague Duplex, la question du style divise le monde en deux catégories.
Oui, il y a ceux effectivement qui pensent que le chic, tel qu'on l'entend, tel que je prononce le mot chic, on va s'imaginer que c'est le doigt sur la couture, c'est une sphère, c'est une secte, ce sont des gens qui sont bien peignés, propres, courtois et entre eux. Et ça, effectivement, c'est se mettre un petit peu le doigt dans l'œil, c'est dommage. Si on ne tient pas compte, effectivement, on parlait de Philippe Noiret tout à l'heure, effectivement, c'était un garçon très élégant, très classique, etc., mais qui ne serait pas Philippe Noiret s'il n'était pas aussi tout charme dehors, tendre, surprenant, encore une fois. Après, le fait qu'il porte une chevalière et une lavalière en soie autour du cou, c'est complètement futile, ça fait de belles images, mais effectivement, sans un peu de panache, l'arrêt sur le côté ne rime à rien.
Quelle est votre définition de l'élégance et du chic?
Ah ben je vais vous les donner, Ali.
Non, mais définition personnelle.
Eh ben c'est ça, c'est vraiment faire jaillir le naturel pour essayer de rentrer en interaction avec les gens et de surprendre ces moments de vie qui sont parfois un petit peu connus à l'avance. Quoi. On sait ce qui va se passer quand on... C'était pas très clair comme définition.
Ah, si.
Non, moi je me suis pas trouvé très clair, je peux recommencer.
Non. Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes l'un des profs de philo le plus chic que je connaisse.
Alors, on confirme.
Oui. La question de l'élégance vestimentaire, c'est une question frivole, futile?
Alors, apparemment, oui, bien sûr, puisque apparemment, la première opinion qu'on peut avoir quand on parle d'élégance, c'est que ça ne concerne que les vêtements et surtout que le regard qu'on peut jeter sur la façon dont les gens s'habillent. Mais ce qu'on vient d'entendre là, à la fois de Viviane Blassel et de Gonzague Duplex, c'est que, en réalité, il n'est évidemment pas question que des vêtements. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu d'être en accord avec soi, on a entendu de faire surgir une forme de naturel, et puis au fond d'avoir plaisir en fait à jouer avec des codes qui peuvent être des codes sociaux, qui peuvent être des codes professionnels, qui peuvent être aussi des codes esthétiques, mais il y a le plaisir du jeu. Et puis, en fait, vous posez la question de savoir c'est quoi votre définition personnelle, etc. C'est ça aussi qui est amusant, c'est que c'est une notion sur laquelle chacun peut travailler sa propre définition. Et vous ne me le demandez pas, mais je vais vous le dire.
Allez-y.
Mon approche personnelle de l'élégance, c'est d'être finalement dans une sorte de mouvement de balancier entre, par exemple, ce qui est original et puis en même temps ce qui va ramener vers une forme de classicisme, entre ce qui est de l'ordre du naturel et ce qui est de l'ordre du conventionnel, entre être un peu à la mode et en même temps aller puiser quelque chose peut-être un peu plus vintage. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se composer une tenue, mais aussi un comportement, mais aussi une façon de marcher, des goûts, voilà, qui pour moi jouent entre ces deux balanciers-là.
Guillaume Lassalle.
Ah ben, je ne peux qu'être d'accord avec ces choix qui n'en sont pas et qui nous laissent. Mais vous voulez plus parler de l'élégance ou
alors est-ce que c'est la même chose? Moi, l'élégance
non,
et le chic.
Non, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, c'est pas du même genre. Chic, c'est masculin. Élégance, féminin. Chic. Alors la notion introduite par Gonzague est très intéressante. Elle introduit une notion de. Je vous en prie.
Quand on se... Vous êtes charmant.
Elle introduit une notion d'espièglerie, de créativité, de non-respect. Respect de certaines normes et puis l'envie avec certains accessoires au fond de faire connaissance avec l'autre, de lui changer la rétine, etc. Alors que l'élégance, non. L'élégance introduit une notion de certitude de soi, de tranquillité de soi, de pouvoir de décision sur soi qui fait que le dialogue avec l'autre est parfaitement possible parce que quand quelqu'un est intimement en désaccord, il traduit ce désaccord est difficilement recevable par l'autre, se traduit par le vêtement, et là, on n'est pas élégant. Quand on est en accord avec soi-même, on est élégant. Donc le rapport avec l'autre est plus facile. À la fois, l'élégance vous permet de ne pas vous faire remarquer, mais en même temps de vous faire remarquer. La notion est très subtile. Elle permet, on va, est-ce qu'on est à la mode parce qu'on est élégant? Oui et non, pas forcément. Il y a aujourd'hui, il y a des pièces qu'on reconduit d'année en année. Elle est d'une utilisation subtile de quelques pièces qui vous vont. Vous savez qu'elles vous vont quoi qu'il arrive et que vous garderez quoi qu'il arrive et quels que soient les autres usages. C'est vraiment un art de vivre, l'élégance, et c'est vraiment une connaissance de soi qui apporte beaucoup et qui se traduit par les vêtements. Mais on en parlera sans doute plus tard. L'argent n'a rien à voir avec.
Exactement, on en parlera tout à l'heure. Bonjour, ouais. Sophie Hoffmann.
Bonjour Ali.
Reporter dans l'émission, vous avez déambulé dans l'exposition Tenue correcte exigée à Paris.
Et aux Arts Déco à Paris, au Musée des Arts Déco, j'ai rencontré Denis Brunat, qui est le commissaire de l'exposition, et il m'a raconté que le scandale vestimentaire remontait à très très loin.
À tout à l'heure, Sophie Hoffmann. N'hésitez pas à témoigner, posez vos questions au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Alexia Rivière et Laure Grand-Besançon ont préparé cette émission avec l'aide de Théo Denmat et c'est réalisé par Claire Destacan.
Nous sommes martiens, Baila, les cracheurs de feu de l'enfance. Le trajet qui n'en finit pas et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park, les pelouses dans les centres-villes. Nous sommes les beaux jours qui débarquent. Nous sommes les amours imbéciles. Appartements retrouvés, la vie qui continue son cours. Les larmes, en retrouvant 30 ans après, sur notre enfant, les mêmes alarmes, pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir, et je te regarde à présent.
Vincent Delerme, à présent.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h22 et ce matin on se demande comment rester élégant du matin au soir, même en étant fauché, avec la journaliste chic à souhait Viviane Blassel, avec Gonzague Duplex, auteur de Comment rester chic en toutes circonstances, et avec la complicité de Thibaut de Saint-Maurice.
Non, je sais pas du tout si j'ai, oui, si j'ai la réputation d'être élégant, et j'ai pas cette prétention, j'ai l'envie d'être bien dans ma peau et dans ma deuxième peau qui est un costume, que représente un costume, quoi. Et j'ai envie d'être à l'aise dans un costume, parce que je crois que si élégance il y a, elle vient dans l'aisance, enfin, dans la facilité dans laquelle on se meut, on peut travailler ou faire quoi que ce soit dans un costume. Puis ça peut être drôle, on peut s'amuser dans un costume, on peut s'amuser avec les couleurs, avec les formes, on peut se faire des blagues à soi-même ou à ses amis, enfin...
C'est-à-dire ?
Ben, je sais pas, on peut faire des choses... qui paraissent de mauvais goût, exprès, ou on peut de temps en temps vouloir choquer les gens, ou... Enfin, c'est pas tellement pour les autres, encore une fois, c'est pour moi.
Philippe Noiret dans Le Bon Plaisir sur France Culture en 1993. Philippe Noiret nous dit que si élégance il y a, elle vient dans l'aisance, dans la facilité dans laquelle on se meut, Viviane Blassel.
Ah bah oui, ça c'est ce qui caractérise vraiment l'élégance. C'est-à-dire quand Voltaire dit que c'est un mélange de justesse et d'agrément, c'est-à-dire qu'à la fois les vêtements sont justes, en même temps on est bien dedans. L'élégance, c'est, comme le disait Édouard Herriot de la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On met ses vêtements et après on doit les oublier. Alors ça, c'est totalement impératif et je crois que c'est quasiment un conseil à vraiment, vraiment écouter pour toutes celles qui veulent choisir des vêtements. Il faut les oublier une fois qu'on les a mis. Ça, c'est vraiment un des diktats les plus importants qui soit.
Et vous le disiez tout à l'heure, Viviane Blassel, l'élégance se révèle également dans la manière de marcher, de bouger dans l'espace, de se mouvoir.
Ah oui, bah quand on est habillé.
Ça s'appelle l'allure.
Ça peut aussi s'appeler l'allure, mais c'est vrai que quand on est trop boudiné quelque part, ou que vous avez mal aux pieds, et quand vous vous sentez pas bien dans votre vêtement au fond, quand vous savez que vous projetez pas l'image que vous avez envie de projeter, forcément vous avez une démarche qui n'est pas aisée, qui séduit pas le regard. Vous voyez un jeune homme ou une jeune fille qui visiblement a pas de sous, c'est pas le problème. Il a un jean, un t-shirt, dis donc, il a une façon de marcher, de descendre les escaliers. Waouh, on regarde que lui, quoi. Il y a pas un rond là-dedans. Et ça me fait... C'est extraordinaire.
Mais je suis d'accord avec vous, ça me fait penser. La semaine dernière, j'ai croisé une dame qui portait un jean brut, des ballerines, un trench. Elle marchait avec grâce, légèreté, le sourire aux lèvres. Et je me suis dit, c'était ça l'élégance.
Bien sûr.
Et j'avais pas l'impression qu'elle portait des vêtements hyper luxueux.
Attendez, ça peut aider des vêtements luxueux. Quoique, moi je suis pas sûr, encore une fois, s'il y a des vêtements luxueux dans l'élégance, dans la coupe, dans les tissus, ça peut se trouver aussi, mais c'est pas obligé. Par ailleurs, moi je suis souvent frappé par le fait que les femmes, au fond, souvent se prennent pour des porte-manteaux. Quand je les vois parler d'une robe, elles me disent « Oh là là, est-ce que c'est beau, les broderies, les machins ?» Ben oui, mais attends, t'es pas un porte-manteau, ma chérie, il faut voir la robe, tu portes pas des broderies, il faut voir que la robe taille et que tu puisses bouger avec. Il y a une intimidation du vêtement, tiens. Je crois que les femmes sont intimidées les trois quarts par les vêtements. Vrai ou pas, jeune fille, vous qui portez un
c'est
t-shirt
possible.
Brillant.
Gonzague Duplex, oui. Sur ce qu'on vient de se dire.
J'ai eu une absence.
Mais pourquoi? Parce
alors,
que
j'ai eu une absence.
Je vous ai re-endormi.
Non, j'ai vu quelqu'un passer. C'était justement une femme très
peu,
élégante.
Concentrez-vous un peu, Gonzague
j'ai
Duplex.
J'ai eu une absence, du coup j'y ai repensé, je me suis...
Gonzague Duplex, est-ce que l'élégance, ça oui. doit forcément rimer avec, avec l'argent? Est-ce que c'est une question d'argent, l'élégance?
Non, absolument pas. Dans la mesure en plus où l'intelligence de notre époque, d'inventer des magasins de très grand public et qui copient ce que font les très grands créateurs, ça c'est quand même plutôt pas mal pour effectivement acquérir le code en vigueur, la veste, le pantalon, le truc bidule, etc. Parce que parfois c'est très important d'avoir le code. On peut pas être toujours en disant oui l'élégance, le machin, les trucs. Acquérir un code, c'est s'habiller pour aller voir son banquier, pour passer un entretien d'embauche, d'école, pour se confronter à un milieu qui est pas le sien quand on rentre, ouais, on va dire dans la vie professionnelle, etc. Donc à bas prix, aujourd'hui, on peut simuler effectivement. L'accoutrement vestimentaire exigé par une épreuve, donc un concours, un truc à passer, etc. Et à bas prix, c'est possible. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et ça représente, mine de rien, quand même, on va dire, je sais pas moi, peut-être 60-70% de l'habillement d'un mec. C'est celui qui lui permet, en fait, de plaire à son patron, de plaire à son banquier, de plaire à sa femme, etc. Il est très contraint par nos vies. Merci pour l'eau. Et
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, puis en un sens, c'est Guitry disait, voilà, le luxe c'est une question d'argent, l'élégance c'est l'éducation. C'est-à-dire que on insiste bien, c'est-à-dire qu'il y a le vêtement bien sûr, mais c'est une façon de le porter, c'est une façon de se tenir avec, c'est aussi une façon d'être vis-à-vis des autres et dans la relation avec les autres. On peut être même très bien habillé et être infect. Au restaurant, ou à un dîner avec des amis, ou à une fête, ou avec son patron, ou avec ses collaborateurs, etc., etc. Et l'élégance, c'est aussi une certaine façon de laisser entrer l'autre dans son univers, de l'écouter, de le regarder quand il parle. C'est une forme de degré supérieur de la politesse. La politesse, c'est ce à quoi tout le monde est astreint pour que les relations sociales se passent convenablement. L'élégance, c'est une sorte de degré supérieur. Voilà, on peut être poli, mais on peut être en plus être élégant dans les relations qu'on a avec les autres.
Ouais, ça introduit une distance, qui est ressentie quand même. On va pas vous mettre tout de suite la main aux fesses si vous avez la véritable élégance dont nous parlons, ce que quelquefois on peut regretter aussi.
Et un mail d'Anna qui nous dit « On retrouve l'élégance à la fois dans l'attitude, la personnalité et le style. Audrey Hepburn était un exemple par son engagement humanitaire, son sourire, son style vestimentaire, sa connaissance de plusieurs langues, ses bonnes manières. » Bonjour Hélène de Toulon, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre définition de l'élégance?
Alors, on m'a demandé d'être synthétique, donc je vais l'être. Pour moi, l'élégance, c'est avoir l'intelligence de mettre en adéquation sa silhouette, sa personnalité et l'activité du moment. Voilà.
Bravo.
Et surtout, être bien dans sa peau, ne pas chercher à copier, à faire le petit singe, bien se connaître et s'aimer. Tout ça, ça donne l'élégance.
Est-ce que vous vous considérez comme une personne élégante, Hélène?
Oh, moi, ça dépend. Ça dépend. Des fois, tout à l'heure, il y a une de collaboratrices là qui a parlé, je me suis retrouvée un petit peu en elle. Des fois, oui, j'ai le temps, j'ai l'envie de m'habiller. Et puis des fois, je fais passer le confort avant l'élégance, je fais pas mal de sport. Puis des fois, j'ai un petit peu la flemme de me changer. Et l'après-midi, je vais faire une activité quand même assez simple, mais je vais garder ma tenue de sport, tout simplement, un petit peu par feignantise. Hein. Puis il y a des moments où, effectivement, je suis une personne de 72 ans, je m'habille plus comme à ma petite fille qui a 20 ans. Je trouve que des femmes de mon âge ou même un peu plus jeunes qui se retrouvent avec des mini-jupes et tout, bon, voilà, je crois qu'il faut avoir la sagesse de se dire qu'on ne peut plus faire les minettes à un certain âge. Et pour moi, même une femme de mon âge qui va avoir de très belles fringues, mais qui ne sont pas adaptées à son corps ni à son âge, pour moi, c'est tout à fait le contraire de l'intelligence. Et ce n'est pas une question de moyens. Là, j'en suis parfaitement convaincue. On peut s'habiller pas cher maintenant et être à la fois élégante, coordonner. Après, c'est une affaire de goût, coordonner les couleurs. Enfin, il y a des tas de facteurs, hein. Mais bon, comme on m'avait demandé d'être synthétique.
Ah, ben oui. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir appelé Toulon.
Elle a été efficace et elle a résumé, au fond, tout ce qu'on vient de dire. Mais je crois, je ne sais pas quel est le métier d'Hélène. Je ne sais pas. Mais, les Françaises, pour beaucoup, pensent comme elles. Celles qu'on voit, pas seulement dans l'autobus, mais en France, quand on boule, etc. On montre qu'elles ont quand même cette conception-là de l'élégance. Et je crois qu'elle la pratique. Alors après, quand on arrive à d'autres niveaux, quand on assiste au défilé de mode et tout ça, bon, alors là, c'est un autre message qui est envoyé. Mais je pense qu'on... Alors, on dit quoi? La Française moyenne, c'est ça?
Mais Viviane Blassel, qu'est-ce qui fait qu'une femme est élégante, quel que soit son statut social?
Eh ben, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est qu'on sent qu'il y a un accord entre les vêtements qu'elle choisit et sa gestuelle et ce qu'elle projette d'elle. Je vous dis, un garçon avec un jean et un t-shirt, tout va bien. S'il est bien dans sa peau, s'il marche bien, tout va bien. Il va enlever le morceau par rapport à quelqu'un de très très. Un garçon qui est très 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 élégant, je trouve, moi, c'est Obama.
Ben oui. C'est pas totalement le style Donald Trump.
C'est totalement l'élégance de la côte est américaine. C'est totalement.
C'est pas non plus Monsieur Tout le Monde.
Grace Kelly, voilà. Oui, mais mettez-le avec un jean et un t-shirt.
Bonjour Thierry, vous appelez de Normandie, où exactement? Bienvenue.
De la baie du Mont-Saint-Michel.
Bon, alors vous, comment vous vous habillez chic? Comment êtes-vous élégant?
Alors surtout chic et pas cher. Je rejoins la plupart des intervenants, hein, à savoir que l'élégance, c'est un peu d'ailleurs le contraire de la mode. L'élégance, pour moi, c'est d'être bien dans ses habits et surtout et dans ses vêtements, et surtout que les vêtements reflètent, je dirais presque l'âme de la personne. À savoir que effectivement, il faut pas les sentir, les vêtements. Il faut pas se sentir marginalisé par rapport aux autres. Il faut être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et déjà, ça, c'est un premier point.
Vous portez des basiques.
Non, j'ai pas les moyens, comme votre intervenante, hein, qui citait quelqu'un de très connu dans la région, hein, Christian Dior. J'ai pas les moyens de m'habiller chez Dior. Donc moi, j'achète des chemises blanches et des chemises unies, grises essentiellement. Et en fait, ça se porte dans toutes les conditions. Ça se porte avec un jean de qualité pour une soirée ou pour une réunion. Et puis ça se porte avec un short en été avec les manches relevées. Voilà.
Bah merci beaucoup Thierry d'avoir appelé Viviane Blassel.
Ah bah la chemise blanche, alors ça c'est mâle et femelle, c'est unisexe.
Tout le monde. Non, les basiques, que unisexe, se passe, voilà, naturellement, qui permettent de passer d'une réunion à un rendez-vous voilà, galant, à bas prix, bon, à très cher prix.
Avec un pantalon,
prix,
sans pantalon.
Sûr, c'est ça l'élégance, voilà, c'est d'être simple, c'est
simple,
de faire
et bon
simple,
goût. Non c'est vrai, la chemise blanche c'est un incontournable, oui, un basique.
Il est en vert, Gonzague
de chez Zara.
Je suis chaud.
Vous êtes chaud, oui. Eh bah il est temps de retrouver... Il est un petit peu moins chaud, peut-être. Oui, le philosophe de Grand Bien Vous Fasse, Thibaut de Saint-Maurice, pour sa petite philo de la pub et des marques.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Thibaut de Saint-Maurice zoome cette semaine sur la campagne de prévention routière spécialement conçue pour les fêtes, actuellement sur les écrans.
Après une soirée arrosée, Fred prend la route. Ses amis tentent de le retenir, mais après tout, il n'est qu'à 3 km. Il n'y arrivera jamais. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Voilà, vous l'avez entendu, l'argument phare de cette campagne. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Avec la signature donc que nous connaissons tous maintenant à propos de la sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Alors l'idée, c'est toujours de lutter contre l'alcool au volant et donc d'en remettre une couche au moment des fêtes de fin d'année pour que les gens soient vigilants et puis pour qu'ils prennent soin de leurs proches ou de leurs amis en ne les laissant pas repartir s'ils ont trop bu.
Alors c'est justement ça la première caractéristique étonnante de cette campagne, c'est qu'elle ne s'adresse pas directement aux conducteurs.
Oui exactement, avant on s'en souvient, les messages s'adressaient aux conducteurs. Vous vous souvenez Ali, c'était « tu t'es vu quand t'as bu » ou bien « boire ou conduire, il faut choisir ». Alors c'était apparemment frappé au coin du bon sens, sauf que quand on a bu justement, on ne se voit plus vraiment de façon lucide. Et quand on a bu, on est plus non plus tout à fait en mesure de choisir. Bref, l'alcool ne nous rend plus tout à fait capables d'être responsables de nous-mêmes. Alors du coup, la stratégie de communication, elle consiste à déplacer la cible. On s'adresse aux proches, en espérant que sur le lot, il y en aura qui auront un peu moins bu et qui pourront donc empêcher ceux qui auront trop bu de prendre la route. Mais en déplaçant la cible, eh bien en fait, on déplace le poids de la responsabilité.
Alors justement, Thibault, est-on vraiment responsable des autres ?
Eh bien, c'est la question à 1000 points que pose cette campagne. Que l'on soit responsable de soi, c'est assez normal, c'est la conséquence que nous acceptons tous à partir du moment où on accepte l'idée de liberté individuelle. Si je fais mes propres choix, alors j'en assume les conséquences, je peux en répondre, j'en accepte donc la responsabilité. Mais comment pourrais-je être responsable du choix des autres ? C'est une vieille question, puisqu'on la retrouve par exemple dès l'histoire dans la Genèse, de Caïn et Abel. Quand Caïn demande « suis-je le gardien de mon frère ?», ça pose deux problèmes. Si je suis responsable des autres, si je dois les retenir donc parfois en les empêchant de partir, comment concilier cette responsabilité avec leur liberté individuelle ? Et puis deuxième problème, si je ne suis pas responsable que de moi-même, jusqu'où je suis responsable alors ? De mes proches seulement, mais aussi de tous les autres ? Bref, est-ce que cette responsabilité ne devient pas un peu vertigineuse ?
Et ça risque de devenir une responsabilité un peu trop lourde à porter ?
Alors oui, sauf si on fait un petit détour par la philosophie de Lévinas. Voilà, Emmanuel Lévinas est en effet l'auteur de la très belle idée de la responsabilité pour autrui. Pour Lévinas, en effet, je découvre cette responsabilité pour autrui à travers l'expérience du visage d'autrui. En contemplant le visage unique de chacun, je fais l'expérience de sa vulnérabilité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un visage est toujours celui d'un seul homme, d'une seule femme. Un visage, c'est celui d'une subjectivité toute fragile, perdue dans le monde. Cette vulnérabilité, nous dit Lévinas, nous engage. L'idée d'une responsabilité pour autrui est au fond la seule qui vaille. Je dois protéger ce qui chez l'autre est vulnérable. Il n'est donc pas absurde de retenir celui qui a trop bu. C'est même plutôt notre devoir à partir du moment où lui n'est même plus capable d'être responsable de lui-même tellement il a bu. En me chargeant de sa responsabilité, je ne limite pas sa liberté, mais au contraire, je la protège, cette liberté. J'en suis responsable pour lui, puisque lui n'est plus en état d'être responsable pour lui-même. Alors, est-ce que pour autant, je deviens responsable de tout le monde ? Est-ce qu'il faut que je retienne, quand je vais au restaurant, tous ceux qui ont trop bu ? Ou quand je suis invité à une fête, je retiens tous ceux qui ont trop bu à la fête ? Ça paraît bien difficile, mais au fond, Lévinas ne parle pas de responsabilité d'autrui, mais de responsabilité pour autrui. Ça veut dire que je dois mettre ma responsabilité au service d'autrui, et ça commence bien évidemment par nos proches, ceux à qui nous tenons, puisque à travers le visage de chacun d'eux, c'est déjà le visage même de toute l'humanité qui se livre.
Merci beaucoup Thibault de Saint-Maurice. Allez, dites-nous quelle est votre conception de l'élégance au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Fa-dum, boom, bum, fa-dum, fa-dum. Fa-dum, boom, bum, fa-dum, fa-dum. Fa-dum, ba-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, fa-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, fa-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, 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 bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Fa-dum, fa-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, fa-dum, bum, 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 bum. Fa-dum, 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 bum, 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 bum. Bum, 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 bum.
Gregory Porter, In Fashion.
Grand
bien vous fasse sur France Inter.
Vous aimeriez être chic sans payer le prix choc? Vous voulez avoir du style sans que votre banquier se fasse de la bile? Ce tailleur parfaitement coupé pour votre silhouette taillerait également dans le vif de votre budget. Ne vous en faites plus pour votre compte en banque. Volez.
Fausse pub signée François Audouin avec la voix d'Éric Oswald, 10h40. Et on se demande ce matin comment rester élégant, même en étant fauché, avec Gonzague Duplex, auteur de Comment rester chic en toutes circonstances, avec la journaliste toujours chic, Viviane Blassel, avec la complicité de Thibaut de Saint-Maurice. Viviane Blassel, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais à quoi bon être élégant si l'on est inélégant du point de vue du comportement?
C'est pas possible ça.
Rappelons les synonymes d'inélégance au sens du comportement: impoli, lourd, discourtois.
Non, c'est pas possible. En général, c'est franchement, je pense vraiment. Alors, si on parle de la véritable élégance, je pense que c'est indissociable. La véritable. Après, il y a la pseudo-élégance avec de beaux vêtements, un tailleur bien coupé, un manteau bien coupé, bon, etc., etc. Ça, c'est, mais la véritable élégance va forcément avec une certaine élégance du comportement dans la vie. Forcément.
Gonzague Duplex.
Le chic, c'est autre chose.
Ouais, c'est un peu compliqué parce que parfois on a quand même envie d'être celui qu'on n'est pas, donc un peu d'emprunter au rustre, au bad boy, au badass.
C'est quoi le badass?
Le badass, c'est John Wayne, si vous voulez. C'est le cowboy solitaire qui n'en fait qu'à sa tête et qui trace son chemin sans soucier du reste. Donc effectivement, qu'est Trump par exemple aujourd'hui, c'est typiquement un badass, donc un personnage de film en général américain. Et à lui, on a envie, effectivement, on a envie de prendre l'élégance d'Obama d'un côté, parce qu'il est d'une grâce incroyable, d'un charme fou. On voit bien que cet homme est en vie et nous donne envie. Et de l'autre côté, on a Trump qui est réellement envie, et dont on aimerait bien avoir aussi le punch, le truc, etc. Parce que parfois, avoir du punch, ça peut être utile. C'est pas le tout, effectivement, de savoir faire le baise-main. Par moments, il faut savoir taper.
C'est pas l'élégance, on parlait de comportement.
On peut cogner élégamment.
Absolument.
Mais sur un ring, et ça s'appelle le noblard. Hein,
oui, non mais vous voyez très bien ce que je voulais dire. C'est quoi le noblard? Bon, on verra plus tard.
Thibaut de Saint-Maurice, pour vous, il existe une formule secrète de l'élégance?
Oui, enfin, c'est une réflexion que je me faisais parce que on parle d'élégance aussi, figurez-vous, en mathématiques. Mmh. En mathématiques, on parle, quand il s'agit de résoudre un problème, par exemple, de solutions élégantes. Et les mathématiciens sont souvent, non pas simplement à la recherche de la solution d'un problème ou d'une démonstration de théorème, mais aussi et surtout de la démonstration ou de la solution la plus élégante. Alors, qu'est-ce que c'est que, en mathématiques, la solution élégante? Eh ben, c'est la solution qui va atteindre l'objectif, c'est-à-dire résoudre le problème, mais en mobilisant le moins de présupposés, de définitions, d'hypothèses ad hoc, etc. Donc, dit plus simplement, en fait, l'élégance mathématique, c'est une sorte d'impératif non pas forcément strictement de simplicité, mais d'optimisation. C'est-à-dire pouvoir faire le plus avec le moins de moyens. C'est rechercher le très bon équilibre entre le maximum d'effets et le minimum de moyens ou de d'effets qu'on va vouloir mobiliser. Et c'est ça qui est élégant, c'est quand on obtient beaucoup en mobilisant peu.
Viviane Blassel, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'élégance c'est d'enlever et non pas d'ajouter, de rechercher la simplicité.
Oui, et puis alors c'est très, vous venez de résumer avec un discours tout à fait élégant la démarche des trois quarts des consommatrices françaises qui vont chercher aujourd'hui des vêtements très élégants en dépensant peu. Et aujourd'hui c'est on ne peut plus possible, parce que comme le disait Gonzague tout à l'heure, il y a vraiment deux, trois marques j'imagine qu'on ne peut pas citer, mais bref, chez lesquelles tout le monde va, et des femmes extrêmement friquées et des femmes extrêmement branchées qui vont dans tous ces magasins pour s'habiller, et on s'y habille très bien. Donc l'équation mathématique élégante est résolue dans ces magasins-là.
Bonjour Anne, vous appelez de Nancy, bienvenue.
Bonjour,
dites-nous tout.
Écoutez, moi je fais effectivement beaucoup les magasins de vêtements d'occasion. J'y vais assez régulièrement, je prends mon temps et j'y vais généralement sans idée préconçue sur quelque chose que je vais acheter. Je regarde, j'essaye, et puis quand quelque chose me plaît, voilà, je le prends. Je privilégie la plupart du temps la coupe du vêtement. Bon, je ne vais pas choisir un tissu qui me fait crier d'horreur, hein, mais je privilégie souvent la coupe du vêtement par rapport au reste. Et je m'habille souvent avec du noir et puis un ou deux vêtements, on va dire, colorés qui va trancher avec le noir, voilà. Et j'arrive très souvent à trouver des vêtements qui me conviennent. Il m'est souvent arrivé d'avoir des amis qui me disaient ah, tiens, ça c'est joli, c'est très sympa, t'as trouvé ça où? Et puis je leur dis en rigolant, ben voilà, je l'ai payé 5 euros et puis je l'ai acheté à tel endroit, quoi.
Merci beaucoup, Anne de Nancy. Comme quoi, Gonzac Duplex, j'allais vous appeler Gonzac Saint-Brie. On peut bien s'habiller quand on est fauché et ne pas renoncer au style quand on n'a pas une thune.
Bien sûr. Et je viens de Nancy, donc je salue cette auditrice. Et effectivement, au Kilo Shop de Nancy, j'ai fait mes premiers pas dans la mode, en fait, dans le style, en achetant effectivement des vestes à 5 balles qui étaient un peu en velours, qui sentaient un peu mauvais, mais c'était pas grave. Et du coup, en mettant par petites touches à droite à gauche, on s'amuse à créer une silhouette, un truc, et qui permet notamment quand on est jeune, et donc forcément plus fauché, on va dire ça comme ça, de créer un truc et c'est évidemment les solderies dont on parle sont évidemment le foyer de là où se crée l'esprit de la jeunesse, le style d'une jeunesse qui est, puisque c'est le rebut de la génération en place, ça va être forcément la richesse de la génération montante et ça c'est assez drôle à observer.
Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai appris que beaucoup de jeunes filles avaient appris la couture dans les poubelles. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient trouvé dans les poubelles des robes jetées par les grands-mères et où là, elles ont pu apprendre en récupérant ces robes ce qu'il en était de la dentelle et de la broderie. Donc ce que vous dites est tout à fait juste. Je vois en fait que dans les magasins qu'on ne peut pas citer, il y a quelque chose qui est mis en place et qui est très intéressant, c'est qu'on peut emporter les vêtements chez soi et les rapporter un mois plus tard. Donc, si on les traite bien, si on est un peu soigneux, on peut essayer les vêtements, voir s'ils vous vont, s'ils vont pas, sans dépenser un rond, quoi. De plus.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, encore une fois, on parle beaucoup du rapport aux vêtements et de tenues vestimentaires. Et encore une fois, pour se libérer une bonne fois pour toutes de cette affaire d'argent, on est soi-même d'ailleurs, on est souvent attentif à l'élégance du comportement de quelqu'un qui, par exemple, n'aura pas fait remarquer que, je sais pas, on avait une tâche quelque part ou qui nous aura quand même invité, accueilli dans une fête alors qu'on n'était pas invité, etc. Et on voit bien que ça n'est vraiment et définitivement pas une question d'argent, mais vraiment une capacité à ne pas faire remarquer ce qui pourrait embarrasser l'autre aussi dans le comportement. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de degré supérieur de la politesse. La politesse, c'est juste le fait de polisser les relations à l'autre. Pour moi, il y a un pas supplémentaire dans l'élégance sociale, relationnelle, parce que ça consiste à anticiper ce qui pourrait embarrasser quelqu'un et à ne pas le lui faire remarquer ou au contraire à le prévenir et donc à faire en sorte qu'il ne se retrouve pas dans une situation embarrassante.
Allez à suivre le reportage de Sophie Hoffmann qui s'est rendue à l'exposition « Tenue correcte exigée » quand le vêtement fait scandale au musée des arts décoratifs à Paris.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning.
Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will still smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Might be just as zippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning!
Good morning!
Rainbows are shining through.
Good
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Buenos días.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morgen.
Guten Morgen.
Good morning to you.
Debbie Reynolds, Gene Kelly et Donald O'Connor, Good Morning, hommage à l'actrice Debbie Reynolds, l'inoubliable interprète de Chantons sous la pluie, décédée hier, un jour après sa fille Carrie Fisher, la mythique princesse Leia.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h51 et on se demande ce matin comment rester élégant, même en étant fauché, avec Gonzague Duplex et Viviane Blassel. Rebonjour Sophie Hoffmann.
Rebonjour Ali.
Vous avez déambulé dans l'exposition Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, avec Denis Brunat, le commissaire de l'exposition.
Et si on a quelques exemples en tête quand on parle de scandaleuses tenues, on se doute moins que le tout premier scandale en la matière remonte à la Genèse. L'exposition s'ouvre ainsi sur un tableau d'Adam et Ève, nus forcément, s'apprêtant à croquer le fruit défendu. Car c'est à partir de là que tout a commencé.
Dieu les a punis, les a expulsés du paradis. Adam et Ève ont découvert désormais qu'être nus c'était mal. Et Dieu, pour couvrir cette honteuse nudité, leur a donné un vêtement de peau. Et c'est un peu le fil directeur de cette exposition, puisque à travers les siècles, les moralistes, les hommes de lettres, les théologiens n'ont eu de cesse de répéter que nos vêtements devaient être le plus sobre possible, parce que ce vêtement que nous portons est le signe visible du péché originel.
Alors, on va essayer de trouver la pièce qui mélange un petit peu les vêtements hommes et femmes.
On évoque majoritairement que les femmes ont adopté de nombreuses pièces de la garde-robe masculine, le chapeau, la cravate, la chemise, la veste, le bouton et bien sûr le pantalon. Nous retraçons en tout cas l'histoire du pantalon féminin, la culotte ancienne, avec le document original qui est l'ordonnance du mois de novembre 1800. Durant tout le 19e siècle, pour pouvoir porter un pantalon dans la rue, les femmes devaient avoir une permission de travestissement qui était d'ailleurs renouvelable tous les 6 mois.
Et donc une loi qui a été abrogée en 2013 seulement.
Oui, mais les femmes portent des pantalons librement dans la rue depuis les années 1960.
Alors on va faire un petit tour, si vous voulez bien, du côté du jean.
Lorsqu'il s'est largement répandu dans les années 50-60, il a défrayé la chronique à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un vêtement qui est lié au monde ouvrier, que les jeunes générations dans les années 50 et 60 ont voulu porter dans la rue. Ensuite, c'était un vêtement qui était quasi identique pour les femmes et pour les hommes, mais l'idée était bien sûr de marquer une rupture de la part de ces jeunes par rapport à la génération précédente.
Est-ce qu'on peut dire que le jean est le vêtement indémodable ?
En tout cas, c'est un vêtement, je dirais, qu'on ne peut pas encore porter dans toutes les circonstances. Le jean, pour moi, reste un vêtement qui est lié à la détente, à la décontraction. Je peux en mettre un pour venir travailler ici au musée.
Heureusement, parce que je porte un jean aujourd'hui.
Voilà, très bien.
Alors j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour sur les vêtements mythiques qui ont fait scandale. On se trouve devant la robe longue portée par Mireille Darc dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire.
Cette robe avait ce décolleté très plongeant dans le dos. Et récemment, Mireille Darc a évoqué justement l'histoire de cette robe. Elle avait dit au réalisateur de lui faire une robe qui ne mette pas, je dirais, en valeur sa poitrine, puisqu'elle avait une poitrine, je dirais, assez faible. Et donc, elle avait dit plutôt de trouver une idée beaucoup plus forte. Et l'idée était vraiment de faire ce décolleté très plongeant, cette ouverture sur le dos jusqu'à la lisière des fesses. Oui, bien sûr, ouais.
Quel est le dernier scandale vestimentaire en date ?
Une tenue qui a fait beaucoup parler d'elle, c'était en janvier 2015, c'est une tenue que Rick Owens a fait qui est exposée, qui est une tunique pour homme. Ben, enfin, quand on regarde bien, il s'agit notamment d'une veste dont le col, au lieu, je dirais, d'entourer le cou et la tête, le col descend et va s'ouvrir précisément sur le sexe masculin. Les mannequins ne portaient pas de sous-vêtements. Et là, il y a eu le dernier grand tabou vestimentaire, c'est de montrer le nu. Voilà.
Donc on peut encore aujourd'hui choquer par le vêtement.
Oui, aujourd'hui, demain, tant que l'homme s'habillera, tant que l'homme vivra en société, qu'il vivra à travers aussi le regard des autres, on n'est pas à l'abri d'un scandale.
Et donc l'exposition Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale, c'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 23 avril 2017.
Merci Sophie Hoffmann, je suis très déçue, je pensais que vous viendriez ce matin avec la robe de Mireille Darc.
J'ai quand même mis un pull à paillettes.
Oui, c'est vrai. Vivienne Blassel, le costume inversé de Rick Owens, où l'on aperçoit la nudité masculine, enfin les parties génitales, faut le dire. Mm-hmm. Ça apparaîtra comme follement élégant, peut-être, dans quelques décennies.
Moi, si on reprend tous nos propos, d'exprimer un accord profond entre soi-même et l'image qu'on veut projeter aux autres, etc., etc. Non. Non, mais c'est pas le propos de Rick Owens non plus. Faut faire parler. Mais à chaque fois, les créateurs ont trouvé des choses pour faire parler d'eux au travers d'une création qui est restée totalement éphémère et absolument pas adoptée. Rappelez-vous la mode SDF de Galliano dans un de ses tout premiers défilés.
Bof. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, pas toujours, parce que, enfin, je suis pas spécialiste, mais on peut dire que peut-être le grand créateur, le créateur de génie, c'est d'avoir justement fait une sorte de rupture, mais qui reste comme étant élégante.
Ah, absolument, alors là, c'est autre chose.
Au smoking pour femmes de Saint-Laurent.
Absolument. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas la provocation de Rick Owens.
C'est ça.
Pour terminer, on a une poignée de secondes pour évoquer quelques erreurs de style à ne pas commettre. Vivienne Blassel, pour vous, les erreurs de style à ne pas commettre. Négliger les détails, par exemple?
Ah non, mais ce que je ne supporte pas, moi, qui font beaucoup de jeunes femmes, un peu de jeunes gens aussi, c'est de se mettre, passer la main en permanence dans les cheveux là pour remettre la frange, ça. Et alors
ça,
souvent,
c'est inélégant pour vous.
Oh, mais c'est plus que ça. Enfin, je les supporte pas. Et alors, quand je suis assis derrière eux dans l'autobus, que je reçois les cheveux sur les genoux, je les tuerais, je supporte pas. Autre chose, alors, que je dis ça aux femmes, peut-être un bon genre femme à tailleur, hein. Ce qu'il faut jamais, jamais, jamais mettre, c'est l'écharpe, vous savez, sur une épaule, sur le tailleur. Alors ça, c'est rédhibitoire. Je vous l'interdis. Voilà.
Et une auditrice, Marie-Laure, nous dit par mail, la faute de goût chez l'homme, c'est pas seulement les chaussettes blanches, mais aussi les chaussettes courtes. Sous les costumes, quand le pantalon se relève, on voit les mollets, les poils, et c'est très peu joli. Les Italiens portent des chaussettes hautes jusqu'aux genoux pour éviter cette image terrible.
Elle a raison.
Gonzette Duplex.
Oui, mais c'est vrai qu'au-delà du pantacourt, des tongs, des chaussettes blanches, etc., qui sont un peu dans...
La faute tout. De style rédhibitoire pour vous, allez.
Mais alors, aujourd'hui, à notre époque, puisqu'elle change à travers le temps, c'est de fumer, ne pas faire de sport, de manger de la viande et de boire de l'alcool. Ça, vous êtes très mal vu si vous faites pas votre petit jogging tous les deux matins, si vous fumez comme ça, vous soufflez comme ça, votre... Et ça, c'est quand même... Ça nous concerne tous, donc c'est plus amusant que cette histoire de chaussettes blanches.
Thibaut de Saint-Maurice ?
Moi, je vais être un tout petit peu classique, mais pour moi, la faute de goût, c'est d'avoir en fait une tenue de pas repassée, pas propre. Enfin, voilà, qui fait pas propre ou qui est pas repassée. Voilà, mais
et qui sont pas bons.
Oui, après, il
peut, alors, ça peut en plus, être... alors
là, ça fait beaucoup, mais
on est dans une autre cour là.
Je ne crois pas vraiment aux sortes de négligés faits exprès.
Merci beaucoup Vivienne Blassel d'être venue ce matin. Merci Gonzalo Duplex, auteur de Comment rester chic en toutes circonstances chez Flammarion et GQ. La technique ce matin, Kevin Pelot et Loïc Frapsos. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.